Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la retour va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, l'after est là comme tous les soirs, jusqu'à minuit à la radio sur RMC. À la télévision sur RMC Sport News, vous connaissez le principe. L'after, la seule émission, bien sûr, en France, en direct. 7 jours sur 7. Casting du soir, bonsoir. After de l'élégance. Jonathan McCain.
Salut les gars.
After de l'élégance, Damien Perrinel.
Et bonsoir tout le monde.
C'est quoi cette voix là?
Ouais, c'était. J'avoue, c'était lampoureux.
Un petit peu.
Salut les gars.
Je sais pas ce qui s'est passé. C'est l'hiver.
Stallone et Jeanne Moreau.
Non, mais j'ai un peu crié tout à l'heure.
D'accord. On est ensemble jusqu'à minuit, messieurs, on a un très très gros programme ce soir. On a 1h10 d'after. Il va falloir être efficace et s'écouter parler sans se couper, bien sûr, parce qu'on a un gros sommaire. Débrief de Metz-Lyon, évidemment. Avez-vous été séduit par Lyon? Je connais la réponse. Nice-Brest, supporter niçois, est-ce que le Nice de Vieira vous agace de plus en plus? Appelez-nous au 32-16. Évidemment, match nul de partout, alors que Nice menait 2-0. Le nouvel épisode également du PSG Circus, la fête d'anniversaire deux jours après la défaite à Dortmund. C'est quoi le problème? Est-ce réellement un problème? Les avis sont partagés ici. Et puis également, alors, une des actus du jour, hein, qui est passée un peu plus inaperçue, alors que je pense qu'elle a plus de sens que le PSG et les anniversaires, c'est le clash Ruffier-Puel à Saint-Etienne. L'agent du gardien de Stéphane Ruffier a sorti le lance-flamme pour brûler le coach des Verts, Claude Puel. Et tout à l'heure, dans Rotten Régal sur RMC, on l'écoutera à nouveau et on en parlera. Appelez-nous, supporters stéphanois, qui vous en voulez? Est-ce que vous comprenez la réaction de Ruffier ou celle de Puel? Et puis Polo Breitner en fin d'after, l'homme de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, pour nous parler de la rumeur insistante d'un retour, oui, d'un retour de Tourelle en Allemagne. Ça y est, tous les médias allemands en parlent de plus en plus, hein, certainement après la défaite du PSG face à Dortmund cette semaine. Voilà messieurs, le 32-16, application RMC Live. Vous allez également sur l'application RMC Sport Direct Studio. On lit vos messages à l'antenne, posez vos questions à Jonathan, à Damien, ou vos remarques, vos critiques, hein, c'est l'after de l'élégance et de la transparence. Mais d'abord, les trois points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Damien.
Et forcément, hein, comment passer à côté de la prestation de Lyon ce soir? Mon premier point, c'est animation offensive, où es-tu? Parce qu'en fait, c'est tellement pauvre avec le ballon. Alors certes, il y a ce nouveau schéma tactique en 3-4-3, c'est parti du deuxième point. À quoi a servi ce 3-4-3? Mettre à l'aise Guimaraes. Enfin, aujourd'hui, le pauvre, il a vu beaucoup, il doit avoir un torticolis parce qu'il a vu beaucoup de ballons passer au-dessus de lui ou à côté de lui, pas beaucoup par lui malheureusement. Et mon troisième point, c'est concernant Nice, quel gâchis. En fait, c'est incroyable cette équipe, l'inconstance de cette équipe qui fait une très bonne première mi-temps et qui la déliquescence en deuxième mi-temps et qui perd tous ses moyens.
Jonathan.
Premier point, évidemment, Lyon n'est pas convaincant. À l'aube d'un match de huitième de finale de Ligue des Champions contre la Juve, Lyon ne nous a pas montré grand-chose. Ils prennent trois points qui sont quand même très importants dans la course pour redevenir européen à l'issue du championnat. Mais on est loin d'être convaincu par ce Lyon-là. Le deuxième point, c'est Patrick Vieira. Maintenant, ça suffit très franchement. Sur le terrain, c'est un enchaînement d'incohérences tactiques. En seconde mi-temps, on en reparlera, mais il y a des changements qui me laissent un petit peu perplexe. Donc voilà, pour moi, Patrick Vieira n'est plus l'homme de la situation à Nice. Et le troisième point, c'est le cirque parisien. On continue, alors on débattra de l'importance ou pas, de la gravité ou pas de faire une fête d'anniversaire. Mais il y a plein de choses à dire et ça a été une semaine mouvementée. Et très franchement, même si les gens savent que je supporte l'Olympique de Marseille ouvertement, j'ai beaucoup de peine pour tous les supporters parisiens.
Voilà, efficace, magnifique les gars, le décor est planté, on est ensemble jusqu'à minuit. Tiens, mes trois points rapidement également, je vous les donne. Définitivement, c'est dur les week-ends de Ligue 1 après une semaine de Coupe d'Europe.
Oh non, démago.
Démago, c'est terrible.
Après
le contraste.
Un match, les gars, on verra demain.
Il y a eu deux matchs. On a vu deux matchs. Ça nous a fait mal aux yeux quand même.
La Ligue 1 peut être spectaculaire, mais oui. Je parle du niveau technique également et même tactique. Mon premier point, voilà, Lyon, c'est désespérément moyen. On en parlera bien sûr. Appelez-nous, supporters lyonnais, et le boxon à Saint-Étienne, messieurs, attention danger. Alors on va me dire, mais non, Saint-Étienne, c'est bon, ils vont se maintenir évidemment. Non, ils ont deux points d'avance sur Dijon. Barragis 18e. Vu le bordel que c'est au club actuellement, vu les relations entre pas mal de joueurs à Saint-Etienne selon nos infos et Claude Puel, est-ce que les Verts vont y résister? On en parle ensemble, appelez-nous également supporters stéphanois. Mais d'abord, je fais un point classement, messieurs, pour vous dire que Lyon. Oui, Lyon est à 4 points de la 3e place, mais avec un match en plus. Évidemment, à 4 points de la 3e place de Rennes, 41 points, Lille 40 points, Monaco 38 points, Lyon 37 points, Nice, qui avait une occasion de revenir également à 2 points du podium, et 9e avec 37 points. Voilà, Brest 12e, 34 points, et Metz ce soir est 15e avec 28 points. Et passe devant l'AS Saint-Etienne. Non, reste devant l'AS Saint-Etienne. On commence par débriefer ce match entre Metz et Lyon, bien sûr. Score final 2-0 pour l'OL. J'accueille Mehdi au 32-16, supporter lyonnais. Salut Mehdi.
Salut Nico, salut Damien.
Salut. Bienvenue dans l'After.
Salut Mehdi.
T'as gagné ? Mais t'es pas content. Ouais. Mais t'es pas content.
Ouais, bah non, mais à l'image de la saison collectivement depuis que Garcia est là, il se passe rien. Il se passe rien. Première action, c'est 42e de minute, frappe de cornet. Voilà, il ne s'est rien passé pendant 42 minutes. On joue le FC Metz, avec tout le respect que je dois au FC Metz, on n'est pas capable de jouer au ballon correctement. Le meilleur joueur lyonnais aujourd'hui, c'est Maxwell Cornet et Bruno Guimaraes. Il n'y a pas une passe vers l'avant, il n'y a pas un mouvement, il n'y a rien. Il ne se passe rien. On va jouer la Juve, on va prendre... allez, au pire, on fait encore un nul à la maison, mais on se prend une danse là-bas. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrête d'exonérer tout le monde, de la direction jusqu'aux joueurs, sur le niveau médiocre de cette saison. Si on m'avait dit au début de la saison que l'OM serait à plus de 15 points de nous à 13 journées de la fin, j'aurais rigolé. J'aurais rigolé. Ils ont 14 joueurs, on a des potes qui sont quasiment doublés à Lyon, on est avec des joueurs de qualité. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des croisés de Memphis et d'Adélaïde, ça tu peux rien. Il y a eu du renfort, il y a eu deux renforts de qualité au Mercato, enfin deux renforts, qualité je sais pas, mais deux renforts en plus pour combler ce vide, et là on en est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu, il se passe rien, on s'emmerde, le stade il est vide, à Germain, enfin au Parc OL il n'y a plus personne qui vient, et aujourd'hui il y a Aulas qui nous fait encore des déclarations, Garcia c'est le meilleur coach qu'il a eu.
Ouais, et Garcia qui resterait à Lyon si c'était possible pour toujours. Et tu sais ce qui est très drôle, Mehdi, je vais t'adonner.
C'est ce qu'il a dit.
Mehdi, je t'ajoute juste une chose, c'est qu'il avait quand même dit la même chose quand il était à Marseille, mot pour mot.
Il avait vraiment dit ça,
mot pour mot. Mot pour mot. Mais, je me rappelle.
Parce que là clairement, il dit d'une interview cette semaine, il dit moi, je veux absolument rester à Lyon toute ma vie, les conditions sont parfaites.
Mot pour mot.
C'est très confortable, non, on y est très bien.
Vas-y, mot c'est dans mot. Sa communication, je ne comprends pas du tout la communication de Rudy Garcia, d'autant plus dans la situation actuelle, en soi, voit à court terme. Ne pense pas à ton cas personnel et l'aspect de l'équipe, l'aspect collectif, l'aspect club. C'est le club qui sera plus important.
C'est quand même amusant qu'il ait dit mot pour mot la même chose. Quoi.
Après avoir la question qui a été posée, je ne sais pas exactement la question en soi, mais au bout d'un moment, même si on te pose cette question-là, Davy va sur autre chose, dit ouais, écoute, de toute façon, moi, aujourd'hui, je suis juste porté jusqu'à la fin de saison de faire le mieux possible et de faire passer son cas personnel au second plan.
Vas-y, Jonathan. Je voudrais rebondir sur ce que disait Mehdi et sur ce que disait Damien dans ces trois points. C'était très juste. C'est de parler de l'animation offensive lyonnaise qui était ultra limitée. Faut dire une chose quand même, et j'aime pas forcément mettre en avant toujours des individualités, mais Mehdi, ton équipe, elle dépend quand même vraiment de l'état de forme d'Oussem Aouar. C'est le seul joueur qui est capable de créer des choses au milieu de terrain. Là, il n'était pas là. Et tu le vois tout de suite. Ouais.
Ouais. Non, bah, je te laisse finir, vas-y, mais
j'ai terminé.
Non, mais je veux dire, j'avais dit que je vous ai souvent au téléphone, je vous ai dit depuis que Adélaïde et Memphis sont out, j'ai dit la deuxième partie de saison, le jeu offensif sera basé sur l'état de forme d'Aouar et les buts de Dembélé.
Ce soir, ouais. Le seul joueur offensif qui te fait des différences. Et je trouve que tu l'as dévalorisé, c'est ta recrue du mercato.
C'est
Toko Ekambi. C'est le seul
Moi, je l'ai pas trouvé génial, moi. Franchement,
mais peut-être pas ce soir, mais depuis ta trêve, quand même, c'est le mec, il a 5 matchs, 3 matchs titulaires, 2 buts, une passe décisive.
Il faut un peu plus de temps, ouais.
Et c'est un mec qui propose de la profondeur, il propose quelque chose, il fait des courses, il est généreux. Ouais. Oh, pour moi,
il est inspirant. Mehdi, reste avec nous parce qu'on doit faire une pause là rapidement. Tu restes avec nous pour débriefer encore cette victoire de l'Olympique Lyonnais. On aura Wassim également au 32-16. Beaucoup d'appels lyonnais. On écoutera notamment le résumé du niveau lyonnais actuellement, fait par un Messin à la mi-temps. Des rares, et c'est sans concession. A tout de suite pour l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain,
Jonathan Macardy, Damien Perrinel, c'est l'After, on est ensemble jusqu'à minuit, appelez-nous 32-16, le hashtag RMC Live, application Direct Studio. Envoyez-nous vos messages. Alors déjà sur Lyon les gars, beaucoup de réactions. Marre des supporters qui se plaignent. Lyon a gagné, Lyon est à 4 points de la 3ème place.
Bravo. Non, non, les gars,
bravo, Lyon.
Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais on peut aussi dire, même si je n'aime pas ça, c'est un match avant un match de Ligue des Champions. Mais le problème, cette excuse elle ne tient pas. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lyon bien jouer. Ceux qui disent ça, je comprends, hein, oui, Lyon a gagné, etc. Mais leur excuse serait valable uniquement si Lyon nous habitue à faire des bons matchs.
C'est quand le dernier bon match de Lyon? Non, mais ça monte pas à Sivigno.
C'est surtout quand tu fais tourner des gars de ton équipe type. Je veux dire, là, aujourd'hui, c'est presque l'équipe type, mise à part Aouar.
Ouais, mais le problème, c'est ce qu'on disait avant la pub, c'est que je pense que cette équipe sans Oussem Aouar, elle sert à rien.
Ouais, et en plus de ça, Oussem Aouar, dans les gros matchs, il a vraiment du mal à faire des différences aussi. Enfin, à chaque fois qu'on l'a attendu, il a jamais pris l'équipe sur son dos, en fait.
Écoutez, laissons parler les acteurs de Ligue 1, qui sont mieux placés, d'autant plus ceux qui sont sur le terrain face à Lyon.
Exactement.
Résumer la prestation, la forme actuellement, le niveau actuel de l'Olympique Lyonnais. Fabien Santonze, à la mi-temps, défenseur messin.
Forcément, il y a beaucoup de colère parce que voilà, on se fait toujours pénaliser de la même façon. Et Lyon, de toute façon, c'est une équipe qui sent sans pénalty. C'est une équipe très moyenne. Donc les arbitres, il faudrait quand même qu'ils se réveillent à un moment donné, ou je sais pas, qu'ils nous mettent des arbitres étrangers. Parce que là, ça va plus du tout. Ça commence à bien faire. Je veux dire, on est dans le match, on est correctement dans la rencontre. Et il faut que ça tombe toujours de la même manière. Donc c'est relou.
Eh ben, ça fait du bien. Bon. C'est relou, hein, dit Fabien Santonze. Lyon est une équipe très moyenne. Voilà.
Bah, il a pas tort.
Bah oui, mais en général, les footballeurs le disent pas. Là, il a le mérite d'être honnête.
Il y avait quand même pénalty. Il y avait pas de doute là-dessus par rapport aux nouvelles règles. Après, ce qui est curieux, c'est de le faire retirer parce que.
Mais attends, les gars, mais vous connaissez la règle ou pas?
Bah,
je suis hyper surpris. Si c'est la règle, visuellement, c'est complètement con, quoi.
Mais
fait.
C'est la course d'élan de Cornet qui est pourrie aussi, qui induit en erreur le gardien.
Non, mais c'est pas ça, c'est que moi. Non, le gardien est 2 mètres devant sa ligne au moment où il tire le pénalty. Il le retire. Mais on change de tireur.
On en a le droit, ça.
Oui, il y a le droit, mais c'est stupide.
J'étais soulagé, j'avais parié sur Lyon et but de Dembélé. Mais...
Non, mais après
ça n'a aucun sens que tu retires un pénalty. C'est
ouais,
pas
sur la
un
règle,
pénalty
c'est...
indépendant du premier.
Ouais, après.
Donc ils choisissent Dembélé derrière.
C'est la règle qui était comme ça. Après, sur les nouvelles règles, aujourd'hui, là, t'as le gardien qui avance de 2 mètres quand même, et puis t'as 2 joueurs messins qui sont dans la surface en même temps. Donc,
il y a ça.
Donc bon, à retirer. Mais après, si on doit revenir sur ce que dit Santonze, oui, en effet, en fait, c'était presque néant. Exactement. Aujourd'hui avec le ballon, c'était très. Alors au moins, ils étaient solides, mais en même temps, à 3 derrière, c'était avec Denayer qui tient tout. Mais avec le ballon, l'utilisation du ballon, on n'a jamais vu de projection de Terrier. Une fois, on l'a vu, ça a donné quelque chose en fin de première mi-temps. Mais après, ouais, ça manque de rythme.
Exactement.
Et là, ils vont se prendre une tornade au niveau de l'intensité. Ça va être très
compliqué. Tu sais ce qui m'inquiète par rapport à cette équipe, c'est que donc on parlait des absents surtout d'Oussem Aouar, mais même je trouve que
je te coupe juste quand on parle des absents, c'est jamais bon. Hein.
C'est ce que j'allais dire. J'allais en parler d'Oussem Aouar. Moi, j'allais aussi ajouter le fait que je préfère quand le petit Cacré joue au milieu de terrain parce qu'il a le même abattage qu'un Lucas Touzard. Défensivement, je le trouve très hargneux, mais je trouve qu'il a une main, il voit les choses plus rapidement et joue plus vite vers l'avant. Et on en est là, on en est à parler des absents, on en est à parler d'Oussem Aouar qui certes commence à devenir un joueur confirmé mais qui reste un jeune joueur. On parle d'un gamin qui a même pas 20 matchs de Ligue 1 dans les pattes cette saison. C'est triste, Lyon, c'est très triste. Et très franchement, bon bah voilà quoi, Rudy Garcia, j'ai toujours le même avis sur lui. C'est un entraîneur qui est devenu un entraîneur médiocre.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui son équipe n'a pas progressé. Et le but de ton entraîneur,
c'est pas mieux que ce que c'est de Vigneault, on est d'accord les gars.
T'as
vu une évolution vraiment?
Non,
il y a eu du mieux par moment, mais ça reste trop instable. Après,
en janvier, t'as eu du mieux.
Ouais.
Après, aujourd'hui, tu retournes dans ce schéma lancinant ou sans rythme.
C'est ça.
Depuis le début février, quoi.
Ce qu'il y a de bien avec Garcia par rapport à Silvinho, c'est que Rudy Garcia, moi je le crépis depuis un moment, mais à juste titre je pense, parce que je pense que c'est vraiment un entraîneur médiocre, c'est qu'il a cette qualité et cette capacité à bien mettre en valeur et à bien intégrer les jeunes. Et à Lyon, il a du matériel, il a des bons jeunes, il avait fait à Marseille avec Max Lopez, avec Bouba Camara, là il a fait avec Cacré, Cherki, on les connaît les jeunes de Lyon maintenant, et il les intègre toujours, voilà, justement, en prenant son temps et de manière très sereine. Mais voilà, l'Olympique Lyonnais n'a pas progressé, l'Olympique Lyonnais est devenu une équipe équipes très moyennes de Ligue 1. Et très franchement, je suis très inquiet parce que pour moi, la qualification européenne de Lyon, elle est vitale, mais plus pour Lyon que pour d'autres clubs. On sait que le club est coté en bourse, on sait que le club est qualifié en Ligue des Champions.
Oui, mais ce club a des fonds propres et des finances saines.
Ouais, mais c'est oui, mais pour l'action, pour le cours de la bourse, c'est dur.
Apparemment, c'est la bourse qui est le plus important.
Ouais, mais si t'es pas en Europe, l'action va s'effondrer.
Ils vont vendre Depay ou Dembélé à 60 millions d'euros l'été prochain. Ils vont se débrouiller.
Mais c'est quoi le projet si tu devais séparer tes meilleurs joueurs, Nico?
Une équipe très moyenne à 10 centons sur Canal Plus tout à l'heure. Mehdi, qui est toujours avec nous, Mehdi, est-ce que tu flippes pour mercredi soir contre la
Juve? Ouais, de toute façon, les week-ends, à chaque fois, je suis tremblant devant mon écran. Bon, l'année dernière, il y a eu quand même le 0-0 à l'aller. J'espère qu'ils vont faire au moins le match d'homme, comme ils font toujours au moins à l'aller, au Parc OL. Au moins qu'ils donnent tout. Moi, pareil, je veux voir le pied cacré sur le terrain. Mendes, le long du terrain aussi, c'est comme il était là en tribune, c'est très bien. Surtout là, sur la phrase du Messin, là, parce que Lyon, cette année, ils n'ont eu que 5 pénaux en Ligue 1 depuis le début de la saison. Oui, ça a été dit par vos confrères qui diffusaient le match. Donc, c'est que le 5e penalty. Donc, sur 26 matchs, ça ne me semble pas,
c'est quoi, ouais,
pas
dingue. Oui,
donc, il faut arrêter de fantasmer sur le fait
Lyon a des pénaux à chaque match. Celui-là est justifié, quoi. Il n'y a rien à dire.
Après, il y en a un. Derrière, il y avait Marcelo. Le fait qu'il soit retiré aussi, il est 2 mètres avant. Bon, après, moi, ce qui m'inquiète dans Lyon, c'est que sans le péno, je ne sais pas si on aurait encore gagné le match, quoi. Sans le péno, je pense qu'on ne gagne pas le match.
Ouais, c'est dur à dire. On ne saura jamais,
mais il ne se passait rien, quoi. Il ne se passe rien. Quand on voit Lyon, il ne se passe rien. Chose. Donc, depuis, à part une mi-temps contre Bordeaux, je crois, à Bordeaux. Mais sinon,
c'est
possible depuis janvier. Bon, ils ont battu là, Bourg-en-Bresse, Brest. Et puis, Olas nous a vendu ça comme. A fait monter la mayonnaise tout seul. Alors qu'il n'y avait même pas deux dans le saladier, quoi. Mais à un moment donné, il va falloir que tout le monde se réveille. Et j'estime que la saison là, elle est vraiment très 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 poussive. Alors après, on va voir ce que ça va donner au classement. Et puis on espère surtout être européen. Bon, si on bat le PSG en les poussant au péno comme Rennes l'année dernière pour la finale de la Coupe de la Ligue. Ça ne mangera pas de pain, comme on dit.
Attention. Merci Mehdi.
Salut Mehdi.
Merci Mehdi. Tu viens quand tu veux au 32-16, bien sûr.
Je disais attention quand même parce que Rudy Garcia en Ligue des Champions, j'avais fait j'avais compté en fait le nombre de valises qui s'étaient pris, que ce soit avec le LOSC ou avec la Roma. Il y a eu plusieurs fois des 6-0.
Après Lyon, c'est quand même une équipe qui en Ligue des Champions, tu sais pas pourquoi. Un Maxwell Cornet, là, on le voit. C'est quelqu'un qui va se surpasser, parfois sublimer lors des matchs de Ligue des Champions.
C'est typiquement le joueur qui élève son niveau sur les grosses soirs.
Ah, mais il y a le Misty Gris. Mais il y a Rudy Garcia. Il y a le porte-malheur. Il y a Rudy Garcia. En Ligue des Champions, il s'est pris valise sur valise, que ce soit avec le LOSC ou avec la Roma.
Wassim, supporter lyonnais, est avec nous. Salut Wassim.
Bonjour l'after.
Salut Wassim. Bien, c'est Wassim, on dit bien ça, c'est bien.
Ouais, c'est ça Wassim.
Bienvenue dans l'after, Wassim. Bon, toi, tu le sens comment la Juve mercredi là? Après ce que t'as vu ce soir.
Une belle valise, hein.
Ouais.
Ouais. On nous dit que Rudy Garcia c'est un grand tacticien, mais pour le moment, je vois pas de. Bah, ils annonçaient ça. Bah, Olas dans une interview disait que Rudy Garcia avait un sens de la tactique assez développé. Mais je trouve pas que ça se ressent sur le terrain. En tout cas, je trouve des joueurs perdus, pas d'intensité, prestations ternes. Il y a quelques jours avec des champions, c'est pas très flamboyant. Hein. Donc, je sais pas ce qui va se passer mercredi, mais je suis pessimiste en tout cas.
Du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu nous dis. Ouais, si moi, je te pose une question toute simple. J'élargis un petit peu, parce qu'après, le match de ce soir est peut-être un petit peu anecdotique. Mais quand t'entends Jean-Michel Aulas te dire que Rudy Garcia est un grand tacticien, alors qu'on sait tous que la qualité, s'il en a, la qualité première de Rudy Garcia, c'est d'être un meneur d'homme, d'être capable de créer, voilà, cet esprit de groupe, de cohésion qu'elle m'avait fait, comme il arrive toujours à le faire plus ou moins sur les premières saisons. Est-ce que tu continues de l'écouter, ton président?
Non, moi, ça me fait doucement rigoler.
Mais oui, c'est la communication.
Voilà, des gros problèmes, quoi.
Il le pense pas vraiment, c'est une prise de position.
Exactement. Il allume à feu ailleurs et puis on va focus sur lui, sur ce qu'il va dire. Mais
tiens, les gars, faisons une évaluation de Lyon ce soir, là. Allons-y. Vas-y, tu peux nous faire ton taulier, ton Casper, ton boulet ce soir.
Franchement, ça va être très difficile. Casper, je mettrais Dembélé pour moi. Parce que devant, c'était franchement nul.
Ouais.
Vraiment, à part Toko Ekambi qui a mis un peu de vitesse et tout, mais alors sinon, le reste, zéro. Et en taulier, moi j'aurais bien mis Denayer.
On est d'accord, je suis d'accord avec toi, moi, sur le taulier.
Moi je mettrais Denayer et aussi Anthony Lopez, même s'il n'a pas non plus 10 000 arrêts à faire. Je trouve que dans son attitude, même si voilà, il a pas à faire beaucoup d'arrêts, il reste quand même hyper important pour ton équipe. Il transmet un truc à sa ligne de défense devant, il est toujours en train de leur parler, il est remarquable toujours.
Pour moi quand même le vrai patron, c'est quand même Denayer. C'est lui qui couvre tout, c'est lui qui couvre Marcelo sur la vitesse, sur les relances, il amène une sérénité dans les duels, il a l'impact. Peu importe le niveau du match, lui il sera un niveau moyen bon. Et c'est la valeur sûre de ce groupe pour moi.
Et sinon, mention spéciale pour Marsal. Le MMA est légalisé en France au mois de novembre. Je l'invite fortement à changer de carrière. Je pense qu'il en a envie. Mais je sais pas ce gars, qu'il a. Voilà. Mais c'est un nerveux.
Il
a un problème.
Mais il est nerveux. Mais surtout, il est en crise de confiance totale.
Il veut se battre tout le temps. Wassim, dis-nous. Il y a quoi avec Marsal?
Marcelo, ouais.
Marcel, je comprends pas pourquoi déjà il a été pris à Lyon. Pour moi, franchement, c'est, je comprends pas. Et juste pour les Casper, je voudrais mettre aussi du coup Rudy Garcia pour son sens tactique, du coup qui s'est retrouvé sur le terrain. Je pense que là, on peut le souligner aussi encore une fois. Tu vois, vraiment, ça fait peur la prestation de ce soir. Je sais pas comment vous voyez le match de mercredi, mais
écoute, très très compliqué. Moi, c'est vrai que Damien a raison quand il dit que Lyon a toujours cette bonne idée de se surpasser.
Il y a un tel écart.
Mais et c'est là où j'allais en venir.
On peut toujours espérer, fantasmer sur. Oui, on sait jamais un mercredi soir Ligue des Champions.
C'est
la Juve,
ce que j'allais dire, Nico.
À domicile.
Il y a l'écart.
Il y a un tel écart.
Il y a l'écart. Et il y a Rudy Garcia. Donc ça veut dire
oui, t'as raison.
Ça peut faire un 5-0.
Non, mais surtout déjà, comment il va jouer? Avec quel latéraux? Parce que s'il met Dubois, Dubois ce soir, on le voit, le pauvre, c'est son premier match. Physiquement, c'est dur.
Bah là, justement, il a fait ce que Tourelle n'a pas fait, il a relancé Dubois ce soir.
Est-ce que ça peut suffire un match comme ça pour prendre le rythme?
Mais non, mais là, il a fait un match en marchant, il a eu du mal contre Metz.
Combien de matchs il faudrait pour.
Il a 3 mois d'absence, mais il lui faut au moins 3-4 matchs pour se remettre vraiment dans un rythme. Correct, on va dire. Mais là, le pauvre, il va tomber sur une intensité incroyable. Ça va aller à 10 000 à l'heure. Et pourtant, c'est la Juve, c'est Sarri. C'est pas non plus l'équipe qui court à tout va partout. Mais
Cristiano en face de lui. Ils courent pas forcément, mais ils arrivent à récupérer le ballon très très haut.
Voilà.
Merci, Wassim. Excellent soir à toi, quand tu veux dans la
mission Juventus, mon pote. On te souhaite un bon match mercredi, cette semaine, mercredi.
On espère. Juste l'after, je pourrais passer un petit message.
Vas-y, Wassim.
C'est pour Iliès, du coup, qui s'est fait les croisés là aujourd'hui. Donc, je souhaite un bon établissement. Il se reconnaîtra, parce que sûrement il vous écoute.
Team Croisé.
Ça marche.
Team Croisé.
Team Croisé Lyonnais.
C'est ça.
Tu t'es croisé combien de fois, toi, dans ta carrière?
Deux fois, moi, les deux.
Deux fois? Gauche-droite?
Gauche et droite, ouais.
Moi,
Jonathan, sur une frappe, non? Sur
un panaka? Sur un coup de pied. Non, jamais. Mais je me suis cassé la main gauche 5 fois. Ce qui fait très mal. Non, mais je me rappelle même Damien. Ce qu'il faut dire, c'est le drame de sa vie parce qu'il a loupé le plus gros contrat qu'il aurait pu se faire à cause de ça.
Mais donc, tellement en plus. Mais ouais.
C'était quoi, vas-y, raconte.
Mais le dernier match play-off, j'étais en fin de contrat à New York. À New York. Et puis, fin de contrat, et j'ai re-signé là où. Au tarif disponible, on va dire. Alors que j'avais des
offres. C'était quoi le contrat? Toujours à New York ou?
Ouais, New York, toujours.
Une prolongation avec une hausse de salaire et tout.
Ah
quoi.
Oui,
c'était pas combien?
C'est quoi?
De 10 à 20 à 15 000 brut?
Ouais, un truc comme ça. J'avais et les tickets restaurants aussi. Et la carte essence.
Là, t'inquiète pas que s'il avait ça, il serait pas venu.
T'es messieurs, comme on a beaucoup d'appels de Lyonnais, on essaie d'en prendre le plus possible.
Il y a là, des
messins?
Timo Bragnac?
Non. On prend qui?
Bah, Ludo.
Connais pas.
Alors.
Quelle horreur!
Ça?
Il en fout.
Je dis pas ça. Tu dis pas ça.
Mehdi est avec nous, supporter de l'OL. Salut Mehdi. Allô Mehdi.
On l'a eu Mehdi déjà tout à l'heure. C'est pas Mehdi, c'est Antoine. Oh,
Antoine. Supporter Messin qui est avec nous. Attendez, avant d'accueillir Antoine, je veux qu'on parle de Guy Maraëch.
Ouais.
Vous en pensez quoi, les gars? On va pas le juger sur une première fois, qu'est-ce qu'on a vu déjà? Qu'est-ce qu'il y a comme espoir dans son jeu peut-être?
Non, mais c'est-à-dire déjà, c'est quelqu'un, on voit tout de suite là une qualité technique. En revanche, ce que j'ai pu apercevoir aussi, c'est que va falloir qu'il soit un peu plus costaud au milieu sur des duels, parce qu'il va pouvoir se faire bouger de temps en temps. Après, Rudy Garcia avait dit juste avant ce match, il va voir ce que c'est que la Ligue 1. Bon, je pense que il va se mettre très rapidement au niveau de la Ligue 1, c'est Guy Maraëch, mais malheureusement ce soir, j'ai envie de dire qu'on l'a sous-utilisé. Et, il a presque pas eu de ballon et le peu de ballon qu'il a eu à exploiter, c'était bien utilisé. Mais dans le système de jeu de ce soir, c'est passé au-dessus de sa tête sur les côtés.
Franchement, pas simple. Quand un joueur arrive de, que ce soit du Brésil ou d'Argentine, on l'a vu plein de fois, je sais que j'adore regarder le football dans ces pays-là. Là, toujours, la question pour savoir si un joueur qui est performant dans ces championnats-là va performer en Europe, c'est toujours de savoir si le joueur va arriver à s'adapter non, pas physiquement, mais surtout à l'intensité. Parce que l'intensité dans ces championnats, sud-américains est quand même bien moins importante. C'est l'intensité, la répétition des courses, etc.
Comme et s'il y a bien un joueur,
ouais, s'il y a bien un joueur sur lequel, toi, hein. Si j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il soit capable de s'adapter, c'est lui. Lui, en Libertadores, il a montré que qu'il avait la taille patron, il a montré qu'il était capable physiquement d'être très fort. Après, sur le match de ce soir, oui, bon, bah, c'est son premier match, il va falloir qu'il trouve ses repères avec ses coéquipiers. Il joue dans une équipe qui tourne pas non plus très très bien. Mais, par exemple, sur le but qu'il refusait à Kartoko Ekambi, tu sens quand même que le mec, il voit le jeu, il a du ballon et il va apporter un vrai plus à cette équipe lyonnaise. Donc je suis très optimiste parce que le peu qu'il nous a montré, le peu de fois où les lieux, ses coéquipiers l'ont trouvé, il a montré qu'il pouvait faire de grosses différences. Le but, si Toko Ekambi part un petit peu plus tard, il a une passe décisive, quoi, tu vois.
Non, bah moi, enfin, je demande à avoir, à confirmer. C'est un joueur que je connais pas et quand tu le vois ce soir, bah, si tu dois faire une comparaison, et encore une fois, hein, je comprends l'adaptation et c'est complètement normal. Ce soir, il y avait pas d'intensité dans le jeu, aussi bien contre Metz que dans le rythme que mettait Lyon. Et comme tu dis, hein, Maxence Cacré, aujourd'hui presque au même âge. Toi, c'est quelqu'un qui va mettre plus d'impulsion dans
c'est
tout ce qu'il fait.
Pas le même profil.
Mais à voir, à revoir. Voilà.
Pour moi, c'est pas le même profil.
Je peux pas te dire que ça va être un crack. J'en sais rien en fait. Ah non,
il faut quand même attendre. Regardez Douillet, Tchaletatsar. Là, on lui dresse ses louanges. Je lui dresse des lauriers, le 13 des lauriers là la semaine dernière. Il fait une très très grosse saison. Première saison, il était fantomatique, quoi. Tu vois. Ça reste des jeunes joueurs. Lui encore plus. Il change de continent, nouveau pays, nouvelle
simple,
langue.
Pas simple du tout.
Pour moi, c'est un joueur qui a été recruté pour la saison prochaine.
Il y a premier
voir.
Match à Metz. Hein, pas voilà. Bon.
Voilà pour Lyon. Antoine, supporter du FC Metz, est avec nous. Salut Antoine et bienvenue dans l'After.
Salut tout le monde.
Salut Antoine.
Bon, voici une défaite. Alors, il y a beaucoup de messages sur les réseaux de Messins qui en veulent à l'arbitre de la rencontre. D'ailleurs, c'était extrêmement houleux à la sortie de l'arbitre tout à l'heure pour des décisions plus ou moins contestables. Penalty, on l'a dit Antoine, il y avait penalty. Le rouge, ben Marçal.
Bien
on peut dire que j'aime bien le coup Marçal, mais il met un coup de coude et derrière Diallo tombe dans le piège. Et
pour le coup, je sais pas, j'étais au stade, j'ai pas bien vu ce qui s'est passé.
Moi, il y avait rouge et rouge, il y avait double rouge.
Ouais, je pense que Marçal aurait pu prendre son
rouge. Marçal aurait dû prendre le rouge et Diallo pourra répondre.
Bon, parlons du jeu alors, Antoine. Qu'est-ce que t'as pensé déjà de ton équipe Messine? Est-ce qu'elle aurait pu espérer mieux?
Bah, forcément, elle aurait pu espérer mieux parce qu'on était quand même contre une équipe de Lyon qui est, comme ça a été dit avant, c'est une équipe moyenne. Très moyenne de Ligue 1. Très très moyenne. Et aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que dans cette équipe de Metz, offensivement, il y a un grand problème de rythme et de choix. C'est-à-dire que quand on part en attaque, les transitions, elles ne sont jamais rapides. On fait des choix de toujours jouer vers l'arrière. On n'a pas de milieu qui arrive à porter le ballon pour l'amener en attaque. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même.
Non, Antoine, ce qu'on a pu voir ce soir de Metz, c'est que si il y avait eu un peu plus de justesse technique, il y avait des coups incroyables à jouer face à cette défense lyonnaise.
Ah,
franchement, c'est une équipe qui doit faire beaucoup mieux que ce qu'elle a produit ce soir. Mmh. Et ensuite, devant, alors oui, vous avez des individualités, mais en fait, ce sont des solistes, les gars. C'est-à-dire qu'ils vont toucher le ballon, ils vont dribbler un joueur, deux joueurs, trois joueurs.
Mais à Diallo.
Bah oui, mais qu'est-ce que ça va.
Open Gate, c'est incroyable ce jeu.
Ça va provoquer quoi derrière? Qu'est-ce qu'on provoque? On déséquilibre, on fait quoi? C'est ça, pour moi, c'est le manque de relations collectives entre les attaquants.
Ils devraient jouer avec un ballon chacun, Niane et Nguet.
Open Gate, c'est un peu un sous-Traoré, Bertrand Traoré, je trouve.
Ouais.
Il y a un truc comme ça. Le mec fait des différences, parfois une fulgurance par match, mais à l'arrivée, tu retiens quoi?
Le problème.
Doublé il y a 15 jours.
Le problème, c'est que Renaud Cohen n'est pas éternel, et c'est le seul joueur un petit peu de ce profil-là que tu as à ta disposition dans ton effectif.
Renaud Cohen est complètement cramé.
Ouais, mais Pajot, c'est pas le joueur qui va faire jouer les autres, tu vois.
Ah, mais Pajot, il a fait du bien depuis la trêve.
Il fait du bien,
hein.
mais il fait pas jouer, c'est pas un numéro, il peut pas jouer en 10 comme Renaud Cohen peut le faire, même si maintenant, avec l'âge, il joue un petit peu plus bas. Mais, c'est vrai qu'au milieu de terrain, je vois pas de joueur capable de prendre le jeu à son compte, de mettre le pied sur le ballon, parce que je trouve qu'aussi, par moment, dans ce match-là, il t'a manqué ça, il t'a manqué de contrôler le rythme de la rencontre, le tempo du match. T'as pas de joueur capable, voilà, de calmer un petit peu, de réaccélérer quand il le faut. Et surtout, effectivement, tu manques réellement d'intelligence, parce que les trois de devant, alors ils ont chacun leur qualité. Nguet et Niane, je suis pas hyper fan, t'as raison Damien, c'est des solistes. Mais je trouve que Diallo, c'est un attaquant qui a quand même beaucoup de qualité. Et si il marque déjà beaucoup, mais si t'avais le mec derrière capable, tu vois, de lui mettre les 2-3 bons ballons en plus, je pense qu'il aurait 5-6 buts faciles en plus et la position de Metz au classement serait bien plus élevée.
Malheureusement, ce mec-là, il coûte cher. Et il y a beaucoup d'équipes qui le veulent, ce mec qui arrive à mettre les bons ballons.
Oui, bien sûr.
C'est pas simple.
Voilà, Antoine, ça va être important là, les prochaines semaines hein, pour le maintien. Déplacement à Amiens, réception de Nîmes, déplacement à Toulouse, réception de Brest.
Le grand problème, c'est qu'on attaque notre seul espoir, parce que comme vous l'avez dit, je peux qu'être d'accord avec vous, Nian Enguet, enfin, il joue que tout seul. Diallo sera suspendu, je ne sais pas pour combien de matchs, et ça peut nous faire très mal.
Ouais, t'as raison.
Mais tu vois, Antoine, moi.
Là, c'est moins deux matchs, Enguet, Diallo, non ?
Ouais,
deux matchs.
Main dans le visage.
Pas plus.
Ouais. Ouais. Mais toi, en fait, ce qui m'agace un peu, moi, c'est qu'on on va valoriser ce genre de joueur soliste aujourd'hui dans un club comme Metz, où en fait. Ah, mais ce qui va vous sortir de là, c'est pas l'individualité, c'est votre collectif, c'est votre esprit d'équipe. Et aujourd'hui, on va mettre des gens comme ça sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire une différence, une fulgurance, comme t'as dit, Nico. Mais en fait, ça va apporter quoi derrière ? Alors, ouais, on va les mettre en lumière, on va les revendre peut-être en fin de saison, 1, 2, 3, 4 millions, je sais pas. Mais.
C'est de la fainéantise intellectuelle.
Mais mince, voilà.
On prend des individualités qui savent pas.
Tu vois des joueurs qui ont un esprit d'équipe.
Vous savez, jouer ensemble. Vous savez ce qui est triste, c'est que quand tu dis ce qui va sortir Metz de là, c'est l'esprit collectif. Je pense pas. En fait, Metz va se maintenir, mais pour une seule raison, c'est que par rapport aux autres équipes qui jouent le maintien, ils ont un buteur. C'est juste pour ça. Ils vont se maintenir parce qu'ils ont quand même le mec qui est capable de mettre bon en malin sa douzaine, quinzaine de buts en Ligue 1.
Mais moi, je parle pas d'équipe en général, je parle des attaquants, quoi. Voilà, ouais. Les solistes, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, fais croquer tes partenaires, joue collectif.
Et je me demande une chose même. Question pour notre auditeur, Antoine. Est-ce que tu penses pas que si, à la rigueur, tu jouais avec un des deux en moins, c'est-à-dire soit Nian et Enguet en moins, quitte à mettre un million en plus, est-ce que tu penses pas qu'il y aurait plus, tu marquerais plus? Moi, je pense que tu marquerais plus parce que les deux monopoliseraient moins le ballon dans les phases offensives et Diallo aurait plus d'opportunités.
Moi, je trouve que Nian, il est inutile. Alors, il a quelques fulgurances, mais sinon, enfin, il nous fait perdre beaucoup de ballons, il ne fait pas les bons choix. Sa qualité première, c'est censé quand même être en partie la vitesse. Je ne le vois pas faire de bonnes accélérations, enfin... Il est hyper limité techniquement.
Ok, Antoine.
Merci, Antoine. De rien.
Merci, Antoine. Excellent soir. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Bon, nous, on revient dans un instant, bien sûr. On va ouvrir le débrief de Nice. Nice face à Brest, de partout. Encore une déception pour Nice qui avait gagné à l'arrache contre 9 Toulousains le week-end dernier. Ouais. Et c'est pas beaucoup mieux. Il y a beaucoup de colère sur les réseaux, notamment, et d'appels au 32-16 contre un homme. C'est Thomas Tuchel de l'UC Nice.
J'étais pas visionnaire sur le coup là.
Ça veut pas dire que t'as raison.
Bah si.
Mais non.
D'ailleurs, je vous en
prie. Allez, dans un instant pour le débrief de Nice, on parlera du PSG également. A tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinel. On a encore un gros programme, les gars. Efficacité, pertinence, impertinence. Tiens, également, supporter marseillais ou nantais qui compte demain aller au match mais qui n'a pas de place. Marseille-Nantes, 17h30 au Vélodrome. On fait gagner deux places dans l'after. Hein. On est toujours aussi généreux. En fin d'after, appelez-nous.
Ça vaut cher, ça.
Deux supporters. On posera une question sur l'Olympique de Marseille. Une question. Celui qui a la réponse, deux places pour Marseille-Nantes.
Tu sais pourquoi ça vaut cher ?
Des bonnes places en plus.
Pourquoi ça vaut très cher ?
Dis-moi.
Parce qu'ils ont déjà vendu 57 000 billets. Ouais. Apparemment, des places, il n'y en aura plus beaucoup.
C'est rare, donc c'est, ouais, c'est précieux.
Une belle ambiance.
Et ça vaut cher. Voilà. Nice-Brest, les gars, score final de partout. L'histoire de ce match, c'est Nice qui menait 2-0 après un très bon début de match. Enfin, un bon début de match, n'allant pas si loin, grâce à Ounas et Dolberg. Et puis là, lumière éteinte, rideau, plus rien pendant une heure. Brest, il faut le dire aussi, hein, Brest a très bien réagi. Égalise par Grand-Cyr à la 45e et par Dante contre son camp. Magnifique, hein, c'est de Dante qui atteint son pic actuellement. 53e, deux partout, score final pour Nice. Nice, quel gâchis, comme tu disais tout à l'heure, Damien. Nice, désespérant. On va ouvrir ça avec Tony, supporter du gym au 32-16. Salut Tony.
Salut messieurs.
Bienvenue dans l'after. Bon, tu vis comment ce match nul côté Nice, voilà?
Oh bah très bien, un régal. Évidemment.
Mais t'en veux à qui toi? Parce que en fait voilà, enfin c'est comme le PSG en milieu de semaine. Qui est responsable? À qui on en veut dans ces cas-là? L'entraîneur? Les joueurs?
Je veux pas manquer de rester à Brest, mais c'est pas Dortmund en face.
Nice n'est pas le PSG non plus, tu sais. Pour l'instant en tout cas.
Ah ouais, bah, je pensais pourtant. Mais
les bonnards, Tony.
J'en veux évidemment à Vieira comme souvent, mais j'en veux aussi aux joueurs parce que à un moment c'est bien beau de remettre la faute sur Vieira parce que tactiquement il y a des défaillances, son schéma ou son schéma un peu hybride, là où Danilo rejoint le milieu quand on est en phase offensive et redescend ensuite, ça laisse parfois des espaces, c'est ce qui amène le premier but de Brest. Mais honnêtement, je comprends pas qu'on se mette autant en difficulté tout seul, quoi. Quand on subit un petit peu, ok, il y a le droit de reculer le bloc pour respirer un petit peu, je comprends, mais quand on recule un bloc, on accepte que les milieux ils sortent sur les frappeurs, quoi.
Exactement.
Et là c'est le deuxième but avec le CF7 Danté. Ah, j'en veux pas, ça peut arriver, mais ils ont le temps de se faire trois passes au bord de la surface, personne sort sur eux.
Il y a pas que ça, Tony. Il y a plein de phases dans le match où tu vois j'ai pas dire la défense niçoise parce que ça serait être trop restrictif, mais où tu vois le bloc équipe niçois en phase défensive, c'est n'importe quoi. C'est totalement désorganisé. Ils sont prendre dans le dos.
Mais déjà
trop facilement.
Sur le deuxième but, je crois que c'est Dolberg qui se retrouve à droite, alors qu'il sait pas trop comment se situer là. Alors je sais pas comment il se retrouve là d'ailleurs sur cette situation.
Mais moi je vais dire pourquoi il se retrouve là. C'est qu'en fait, la critique principale que j'aimais à l'encontre de Patrick Vieira depuis le début de la saison maintenant, c'est que ses équipes, ses mises en place tactiques et ses compositions d'équipe, à chaque fois, sont marquées par le même saut, par la même ligne directrice. Et cette ligne directrice, c'est l'instabilité et le déséquilibre. Là, quand on regarde comment l'équipe elle est alignée, il joue avec Thuram au milieu, qui sort de 2-3 bons matchs. Là, il a fait une bonne petite série. On a dit qu'il avait stabilisé un petit peu ce milieu de terrain-là, mais il lui adjoint seulement le pauvre Pierre Lesmélou. Est-ce que Pierre Lesmélou, associé à Thuram, c'est un milieu qui vous semble équilibré, qui vous semble solide pour avoir le contrôle et la possession d'un match? C'est une question que je vous pose.
Tony, tu veux répondre ou Damien?
Non, Damien. Donc après, t'as Claude Maurice aussi qui est là pour compenser. Mais après, je veux dire, pour moi, j'ai envie de te dire, oui, Vieira est responsable de la situation aujourd'hui de l'OGC Nice parce que c'est l'entraîneur de toute façon. Et quand tu perds un match, quand tu gagnes un match, l'entraîneur est responsable. Après, il y a une phrase de Vieira sur le côté que j'ai entendue, c'est « Les gars, on défend en avançant et on va jouer de l'avant. »
Mais les mecs le font pas.
Et les mecs le font pas. Je suis désolé, au bout d'un moment, quand tu vois les gars qui font que reculer, un Danté qui fait que reculer, alors que t'entends quand même ton entraîneur sur le côté qui dit « Les gars, on est là pour avancer sur le porteur. »
Damien,
il y a tellement de liberté. Mais ce que je comprends pas, ça pose un autre problème,
c'est que les joueurs n'écoutent pas Vieira. C'est une question d'autorité.
C'est pour ça
peut-être que Vieira n'a pas l'autorité sur son équipe et dans ce cas-là, il est responsable.
L'entraîneur est responsable forcément à un moment ou à un autre.
Damien, la question
est finie.
Qu'est-ce qui explique le fait que aussi, ça joue pas trop mal pendant 35 minutes. Ok, ça charge le but de Dolberg qui est magnifique,
le premier
ben ressorti de balle, ainsi de suite.
Ouais,
je vais te dire, c'est quelque chose qu'on voyait faire à New York City, parce que c'était là-bas. C'est exactement les schémas qu'il avait mis en place, de ressorti de balle, propre, simple, voilà. En revanche, en effet, là où je te rejoins, c'est que parfois dans le déséquilibre défensif, dès que cette équipe est dans l'équipe, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus comment se positionner, ainsi de suite. Et c'était ce qu'on pouvait aussi voir lorsqu'il était à New York.
Messieurs, là-dessus, je peux intervenir. Le vrai problème, selon moi, c'est au-delà de tout ce qui est tactique, ce qui est système déséquilibre, c'est à un moment, quel est le choix qu'une équipe fait quand elle mène? Est-ce qu'on décide de vouloir enfoncer le clou ou est-ce qu'on décide de temporiser, de faire des conservations de balles? Et j'ai l'impression que ce choix, Vieira, il ne le prend jamais, en fait. Et du coup, là, il l'a pris, et il a pris le mauvais, pas de bol pour lui, comme ça arrive souvent, mais il a pris le choix, je pense, de contenir un peu plus, et il a dit à Danilo, bon, en deuxième mi-temps, tu restes cette fois dans la défense centrale, tu montes pas trop, on contrôle.
Jusqu'à la 65e, je suis d'accord avec toi, Tony, où tu vois clairement cette équipe, en fait, qui va dans son camp, et qui va plus presser, qui va plus rien faire.
Mais, exactement.
Je suis d'accord avec toi.
Le problème, moi, je trouve, c'est que, encore une fois, on revient dans le thème de l'incohérence, parce que quand Damien nous dit qu'il entend Vieira dire, oui, mais il faut défendre en avançant, le problème, c'est que tu peux pas le faire quand t'alignes une telle composition d'équipe avec les tels joueurs, avec un milieu de terrain. Je veux pas insister là-dessus, mais le milieu de terrain, pour moi, ça a toujours été le problème principal de l'OGC Nice depuis le début de la saison. Quand t'as un milieu de terrain avec Thuram, Lesmélou pour récupérer le ballon, je suis désolé, mais n'importe quelle équipe va te manger au milieu. Et surtout, il y a une chose qui me frappe, c'est le manque de cohérence entre le discours très offensif, très ambitieux qu'il peut avoir, et ce qu'il met en place sur le terrain. Quand tu vois que
surestime son matériel, peut-être.
Bah, je sais pas, mais quand tu vois que son changement, tu vois, alors qu'il y a 2-2 à la 80e minute, c'est de faire sortir son latéral pour faire entrer Durmissi,
Ensoki
pour Durmissi, tu te dis waouh, le mec super, quelle ambition, tu fais sortir tu changes ton latéral, quoi, alors que t'avais quand même sur le banc, t'avais d'autres choses. Et une dernière chose par rapport au milieu de terrain, et c'est ça qui m'énerve le plus et qui me laisse à penser qu'en plus d'être un tacticien qui n'est pas encore mature pour avoir une équipe de Ligue 1, c'est que c'est un entraîneur qui a beaucoup de mal à gérer son groupe. C'est quand tu vois le conflit qu'il a avec Luzamba et quand tu vois l'impact et l'apport que le même Luzamba a quand il rentre vers la 60e minute de jeu. Lui, il doit être titulaire dans cette équipe-là. Je te dis pas que c'est un joueur qui est extraordinaire, mais non, de par son profil et de par l'équilibre qu'il amène, il est mieux que tout ce qu'il a à sa disposition.
Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Jonathan, pour la simple et bonne raison que Luzamba, tu le vois sur le premier ballon ou deuxième ballon qu'il a, je crois qu'il fait une passe, ça fait presque but pour Brest. Déjà, et tu vois la dilettante qu'il a quand il rentre. Le mec, il a pas envie de se faire mal. Alors sur un moment ou deux, il va se faire un exploit individuel parce que en effet, il y a des qualités intrinsèques qui sont comme ça. Mais au bout d'un moment, il a quel âge Luzamba? Je sais pas quel âge il a. C'est un gamin.
Il a 22, 23.
Ouais. Eh, si à 22 ans, tu rentres sur le terrain, tu te bouges pas un peu plus et tu.
Mais moi, j'ai trouvé qu'il a été bon. Hein. À part, là, je vois l'action dont tu veux dire. Mais il a apporté dans l'impact. Ouais, il a apporté dans les duels.
Mais tu commences.
Il a 23 ans,
tu commences sur le banc, mais tu rentres, tu dois tout vouloir bouffer.
Et si je pense que sa situation elle est quand même un petit peu injuste. Et Tony, toi t'en penses quoi
moi j'en pense que la situation est pas injuste parce que ça se sait que Luzamba à l'entraînement fait partie de ceux qui excusez-moi l'expression mais en branle à une quoi.
Bah voilà, donc c'est normal
à un moment moi je militais aussi pour Luzamba parce que je trouvais qu'il nous apportait dans l'impact et surtout dans l'animation offensive.
C'est ce qui te manque.
Mais franchement, c'est pas possible à son âge et justement alors qu'il est sur cette brèche où il pourrait être titulaire surtout avec l'absence de Cyprien que le mec se donne pas plus à l'entraînement, c'est inadmissible.
Tony, si tu nous dis qu'il fout rien à l'entraînement, ça je pensais que c'était juste des rumeurs. Je te crois, et du coup, vous avez raison, je donne raison.
Il y a un gars là qui est entré en jeu là, Mizen Maolida, 10 millions d'euros.
Ouais,
il est fort, Jean-Michel. Hein.
Lui, c'est pareil.
Il a vendu 10 millions d'euros à
c'est
Nice.
C'est pareil.
Non, mais les gars.
C'était pas c'est à Nice, ouais.
Si.
Il était pas passé par Monaco avant?
Non,
il arrive. Non, mais c'est dingue.
Franchement, ça fait partie des. Tout le monde disait que c'était une bonne.
Bravo, Jean-Michel.
On va pas se mentir. Tout le monde était unanime pour dire que Nice avait fait le coup du siècle quand ils l'ont pris.
Ouais,
rappelez-vous du contexte. Faut pas être non plus tout le temps injuste. Tout le monde était d'accord pour dire qu'ils avaient chopé à Lyon une pépite. Les Lyonnais étaient prêts.
Non,
c'est pas vrai. Les Lyonnais étaient prêts à s'ouvrir les veines en disant qu'ils avaient vendu les bijoux de famille. Donc oui, ça marche pas. C'est un jeune joueur encore et on n'est pas à l'abri à ce qui
Les gars,
il a quel âge? Il a 21 ans, même pas.
Ouais, je crois que
il
c'est
a 20
ça,
ans. Bah, attends,
tiens, sur l'hashtag RMC Live, 21 ans, il a. Alex Nissa du 06, un habitué de l'after qui nous dit: j'ai aimé le Nice du début des années 2000 avec les Cobos, Abardonado au niveau de l'état d'esprit. J'ai aimé le Nice de Puel et de Favre par le jeu. Cette saison avec Vieira, ni jeu, ni état d'esprit.
Mais il a raison.
Ouais, c'est vrai que c'est un résumé assez.
Par contre, je l'en veux un petit peu parce qu'il oublie le joueur le plus important du Nice des années 2000.
On sait qui?
Sex, drogue et Cyril Roll.
Ouais,
d'accord. Ce
Tony, tu veux ajouter quelque chose ou pas?
Ouais, je pense qu'on a tendance, c'est normal qu'on se focalise sur Vieira, mais à un moment, il va aussi falloir se poser la question des joueurs individuellement. Et honnêtement, Adam Ounas aujourd'hui, alors il a été important sur nos buts, ok, mais il fait un match qui est indigne d'un joueur de son niveau. Honnêtement, avec la qualité technique qu'il a, le début du match, je sais pas si vous avez fait attention, mais les trois premières passes qu'il fait, c'est rendu immédiatement à Brest. C'est dans leur tête.
Tu trouves pas qu'il manque quand même, t'as l'impression qu'il joue d'une manière un petit peu démotivée? C'est quand même.
Oui, voilà, je trouve que, et d'ailleurs, j'en viens un peu là-dessus sur Mizien. Honnêtement, je trouve qu'on est un peu dur, nous, supporters de Nice, en général, avec lui quand il rentre et quand il joue, parce qu'on a un peu considéré qu'il était trop nonchalant immédiatement. Moi, je me rappelle que Pléa, c'était extrêmement compliqué au début aussi, et s'il est capable, peut-être avec un autre entraîneur, je l'espère, de progresser, franchement, je pense que ça peut devenir un super joueur. Mais là, ce qu'a fait Ounas sur ce match, franchement, je l'ai en travers de la gorge. Et pourtant, il marque, il pique peut-être un peu le but de Dolbert, mais il marque, il fait une passe D, très bien. Mais honnêtement, c'est dans l'animation, il nous perd la moitié de nos ballons.
Ouais, c'est pas faux.
De toute façon, les gars, monsieur Rivière l'a dit. C'est une transition cette saison.
Bah oui.
C'est facile de dire ça.
Non, c'est là il a raison parce qu'ils ont.
Mais y a pas de transition. Si tu peux être troisième de Ligue 1, troisième de Ligue 1, faut arrêter.
Si tu gagnes un an.
Je vais vous dire pourquoi c'est une transition. C'est une transition parce qu'on se rappelle qu'Ineos est arrivé un petit peu sur le tard à l'intersaison cet été. Ils ont fait des achats conséquents mais qui ont été faits sur le tard. Et je pense très sincèrement que s'ils étaient arrivés un petit peu plus tôt, je pense qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre sur le banc.
Il y a un P dans l'océan qui nous dit sur hashtag RMC Live, l'OGC Nice ne souhaite pas être européen cette saison pour échapper aux règles du fair play financier et dépenser sans compter cet été.
Je crois que s'il y a de ça aussi.
Ouais,
je pense surtout qu'ils vont changer d'entraîneur et prendre un entraîneur qui aura un standing et des capacités.
Tony, t'en penses quoi? Tu veux un changement l'été prochain ou pas?
Moi dans l'idéal je veux un changement.
T'as des idées? T'as des noms ou pas?
Faut combien de temps? C'est 2 ans, 3 ans qu'il
y a? Non, honnêtement, j'ai J'ai pas de nom précis en tête.
Ah, moi j'en ai une. J'en ai
Lucien Favre, il sort en 8ème contre le PSG.
Moi j'en ai un de nom.
Il est en crise, il revient à Nice.
Moi j'en ai un de nom qui est parfait pour le GC Nice. Bah, même s'il semble être promis pour le Paris Saint-Germain, un Italien, Allegri, Nice à Allegri, côté de l'Italie. Si, bah, Nice, vu les moyens qu'Ineos a, moi, si j'étais Ineos, je mettrais le paquet, parce qu'ils ont de la thune, apparemment, je mettrais le paquet pour prendre un entraîneur de ce standing-là.
Ouais, mais je sens que c'est ce que veut faire le club. Allegri, c'est l'équipe que j'ai envie de voir sur le terrain. Je suis.
Oui, t'as raison, tu fais la raison, c'est ça aussi. Mais en Allegri, cas, c'est efficace, mais c'est un peu
Tony,
pur,
Tony,
quand même, hein.
Moi, Tony, Nico, Damien, moi, je vous dis, je pense qu'ils ont les moyens de prendre un entraîneur de ce standing-là.
Ils ont les moyens de prendre qui ils veulent, je pense, objectivement.
Et donc voilà, bah, il faut bien.
Et tout le monde n'a pas forcément envie d'aller à Nice aussi.
C'est pour ça qu'un Italien.
Il y a beaucoup de propositions et peut-être une de PSG.
C'est pour ça qu'un Italien sera peut-être plus susceptible d'aller à Nice, de par la proximité géographique, parce qu'il connaît la ville, etc.
Voilà, Tony. Merci, Tony.
Merci, messieurs.
Tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr. Jonathan et Damien sont avec moi jusqu'à minuit, bien sûr. Dans un instant, on ouvre une parenthèse. Paris Go, Stéphanoise. Deux sujets du jour, évidemment. La teuf des trois anniversaires.
D'ailleurs.
Alors, nous reproche de sombrer dans le people. Beaucoup de messages. Arrêtez avec les anniversaires.
Non.
C'est pas du people, en fait. C'est parce que dans une semaine européenne, avec un match il y a deux jours, un match dans trois jours, et échéance dans trois semaines également. Ça devient intéressant. En termes d'infos aussi.
Oui.
Non, mais c'est vrai.
Mais en parlant d'anniversaire, moi je vous en veux, vous m'avez même pas demandé si j'avais bien fêté avec Marinette son anniversaire la semaine dernière.
L'after est là, je suis minuit à tout de suite avec Jonathan et Damien.
Vous êtes dégueulasses, les gars.
On s'en fout.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan McCarty, avec Damien Perrinel. Jonathan McCarty qui ne peut s'empêcher pendant la pub de mettre ses pieds sur la table, je sais pas pourquoi. Voilà. Ça se voit toujours quand on prend l'antenne sur RMC Sport.
Et on en parle de toi, ce que je fais pendant les coupures de pub.
Rien. Les gars,
ouais.
Dans un instant, on parle de Saint-Etienne et le clash entre Ruffier et son agent d'un côté et Claude Puel de l'autre. C'est extrêmement rare quand même. Enfin, ça arrive pas souvent qu'un agent s'en prenne avec une telle violence même, j'ai envie de dire, envers un entraîneur, en l'occurrence Claude Puel. Mais d'abord Paris, les gars. L'anniversaire qui fait débat. Je veux votre avis là-dessus. On rappelle les faits, triple anniversaire hier soir, Icardi, Cavani, Di Maria, des vidéos partout sur les réseaux. On voit les mecs faire la fête, danser, torse nu. Ils font la fête. C'est des gamins de 27-28 ans. Why not? Pourquoi pas? C'est aussi de leur âge, même si on peut faire la fête à 40 ans. Alors, on a contacté.
J'en ai l'exemple.
J'ai pas 40 ans. On a contacté le Paris Saint-Germain. On nous a dit qu'on n'a pas aimé. Voilà, on n'a pas aimé au PSG.
Vous n'allez pas dire, ouais, c'est super, bravo les gars, vous alors, une fête. En même temps.
C'est pas une communication officielle, on les a joints, voilà. Ce sont nos infos. En clair, ok, les joueurs ont le droit de relâcher la pression. Mais on regrette que des vidéos soient sorties. Conclusion, c'est plus sur la forme que sur le fond que le PSG et dont, a priori, Leonardo n'ont pas aimé ces publications de vidéos sur les réseaux. Bon, votre avis, les gars, là-dessus, est-ce qu'ils ont déconné de faire ça? Ou, ils ont bien le droit de le faire, les gars. Ils sont à trois jours d'un match contre Bordeaux. Le Borussia, finalement, c'est dans trois semaines. C'est pas grave.
Mais en soi, qui fête l'anniversaire, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ils font leur anniversaire. Et en plus, c'est un triple anniversaire. Ils ont besoin de décompresser. Tous les joueurs font ça. Il n'y a pas de problème là-dessus sur le fait, voilà, qu'ils fassent leur petite sauterie. Mais là où c'est très grave, et c'est même pas que c'est grave, en fait, c'est à la fois débile, mais totalement débile, et à la fois un gros manque de respect. Débile. À cause du timing, parce qu'apparemment c'était quelque chose qui était prévu depuis plusieurs semaines, ce qui est quand même hallucinant de se dire que t'es con au point de prévoir une fête entre deux matchs de Ligue des Champions, dans le même tour de Ligue des Champions. Faut être totalement débile quand tu connais le traumatisme que le club du Paris Saint-Germain a justement avec ce premier tour à élimination directe de Ligue des Champions. Si tu fais une fête, la planifie pas à ce moment-là, c'est tout simplement du bon sens. Faut être totalement idiot pour faire ça avant ou entre les deux matchs. Fais-le après à la rigueur. Fais-le après, qualifié, pas qualifié, mais fais-le après. Parce que là, tu sais très bien que la narration et le storytelling qui va être fait sur ton club pendant les trois semaines qui vont suivre, c'est ça, c'est cette double confrontation-là. Et tous tes faits et gestes vont être épiés à la loupe. Et là où je trouve que c'est un irrespect total, c'est qu'à la rigueur qu'il fasse la fête. On s'en tape, mais là où le club a raison, c'est dans la forme. Dans la forme, s'il te plaît, n'étale pas à la gueule de tes supporters qui, pour beaucoup, ont fait 8000 km en bus, sont tapés le trajet là pour aller vous te voir, te faire ridiculiser contre Dortmund. Ne remets pas à la tronche sur les réseaux sociaux des vidéos de toi en train de faire le guignol avec tes copains torse nu alors que t'as des épaules de serpent et à moitié bourré. C'est totalement c'est pense à tes supporters. Et moi, j'ai beaucoup de peine pour les supporters du Paris Saint-Germain. Je le dis très sincèrement.
Non, mais très franchement, je m'en
Si je me mets à leur place, j'aurai mes joueurs qui font ça. Je les attendrai au camp des loges avec une balle. Enfin, voilà. Je veux pas dire quoi, mais j'attendrai au Candelo, j'ai avec des bananes ou je sais pas, je les pourrirai quoi. Tomates. Des bananes pourries, des tomates pourries, et je les pourrirai parce que c'est un manque de respect.
Et t'as perdu ton match contre Dortmund il y a deux jours. Qu'est-ce que tu vas faire quand j'entends les émissions en fin de journée disant
Tu penses à Jérôme. Alors, Jérôme Roten dans Roten Régal dit quand tu as une conscience professionnelle à 48 heures d'un match de haut niveau, c'est là que tu es le plus fatigué, là que tu dois récupérer. Eux préfèrent faire la fête jusqu'à pas d'heure.
Ok.
J'entends ce qu'il dit.
Ok, pas de problème.
C'est là que tu nous éclairer, toi, ancien joueur.
Maintenant, qui ne l'a pas fait en tant que joueur professionnel? Dites-moi franchement qui ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as perdu un match. En plus, moi, j'étais comme ça. C'est-à-dire que quand je perdais un match, mais pendant une semaine, fallait pas me parler, fallait pas faire cible, et je sortais pas, et j'allais me coucher, je voulais tout faire bien. Ça m'a servi au final? Non. Mais non, parce qu'en fait, tu fais quoi? Tu fais que ressasser ton match.
Tu rumines,
machin. Et là, et peut-être que t'as des joueurs qui ont besoin d'aborder des événements d'une manière différente. C'est une question de culture, en fait. Qui te dit que les Brésiliens, c'est dans leur culture aujourd'hui, ils ont besoin de passer vite à autre chose. Et peut-être, alors, on va faire quoi? On va ruminer sur Dortmund pendant combien de temps, en fait, le truc? Et là, donc, ils font ça deux jours avant Bordeaux.
Trois
jours. Mais ils ont combien de points d'avance en championnat? Mais le championnat, il est gagné. Mais donc vous préférez quoi? Qu'ils fassent ça dans deux semaines, dans trois semaines, ou alors quoi? Trois jours avant Dortmund? Mais en gros, moi, j'en ai rien à faire qu'ils se fassent des câlins à 5h du matin en se disant je t'aime. Mais c'est tant mieux pour eux. Et puis bah si ça peut les aider derrière à être plus solidaires sur le terrain, je dis pourquoi pas. Et encore, bah toi, on va dire on s'en fout.
On découvre qu'il y a une super ambiance entre les Sud-Américains.
En revanche, pour terminer, les gars, excusez-moi, mais vous êtes stupide. Vous gagnez des millions par an. Vous n'êtes pas capable de prévoir qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, que toutes ces choses-là vont sortir. Vous mettez des gardes du corps partout. Vous confisquez les portables. Vous voulez faire votre soirée. Faites votre soirée. Vous pensez qu'à Barcelone ou Real Madrid ou je sais pas, dans plein de grands clubs, ça se passe. Dans tous les clubs, ça se passe. Mais ça ne sort pas. Comment ça se fait? Ça ne sort pas ailleurs. Et chez nous, ça sort.
Le pire, c'est que c'est la femme.
Bête.
C'est la femme d'Icardi, qui est aussi son agent, qui fout les vidéos. Elle est totalement débile. Il n'y a pas d'autre mot.
Et demain, tu me parles des supporters du PSG. Je t'annonce, les supporters du PSG, demain, tu te qualifies en 8e contre Dortmund et machin. En revanche, te blesse pas dimanche. Ne perds pas contre Dortmund dans 3 semaines parce que là ça va piquer.
Mais on est d'accord en fait tous les trois, c'est que sur le fond qu'il fasse la fête, moi je m'en fous.
Oui.
Mais parce que je suis pas Jérôme, je peux comprendre qu'il pète un boulon parce que c'est son club.
Mais il manque de respect Jérôme.
Damien, moi je peux comprendre Jérôme parce que Jérôme c'est un vrai supporter du Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un qui est amoureux de ce club-là.
Mais,
ça il y a pas de doute.
Mais j'en ai plein des potes supporters du PSG sur les premiers à me dire qu'ils s'en foutent de ça.
Jérôme il est vexé parce qu'il est supporter du PSG.
Je peux comprendre sa réaction.
Je pense que Jérôme aussi à l'époque, il a fait la fête entre deux matchs, sauf qu'il n'y a pas les réseaux.
Je peux comprendre sa réaction.
Bah, si. Mais là où il a totalement.
Plus qu'il nous met, Jérôme, tous les soirs dans l'after.
D'ailleurs, il y a son émission, je ne sais pas. Là où il a totalement tort, c'est franchement, ça va, on va. Enfin, n'en faites pas une montagne. N'en faites pas une montagne, ils font la fête à la rigueur. Damien a raison, ça peut même
peut-être
même positif de voir Neymar faire des câlins à Cavani.
Mais même à l'époque, vous avez vu Fernandez, il met Ronaldinho sur le banc parce qu'il est sorti, ainsi de suite. Et puis tout le monde dit ça. Et alors, s'il se sent bien comme ça, et s'il est bon comme ça, laisse-le faire la fête.
Juste pour terminer là-dessus, très vite fait, je vais me répéter. Mais là où c'est totalement de la débilité sans nom, c'est d'avoir prévu cette fête-là entre les deux matchs de 8e de Ligue des Champions. Faut être stupide pour faire ça, quoi. Y a pas d'autre mot.
Karim, supporter du PSG, est avec nous. Salut Karim.
Salut, bonsoir.
Salut Karim, bienvenue dans l'after. Je suis supporter Dortmund, visiblement.
Moi, je suis supporter de Dortmund. Hein.
De Dortmund, précision. Alors, tu dois te marrer, toi. Ça te fait plaisir de voir les Parisiens faire la teuf deux jours après.
Ce club, il marche totalement à l'envers. Hein. Février-mars, là où tu dois être focus football et que football, et ben c'est là où ils font un match catastrophique à Dortmund. Où dans les réseaux sociaux, ils montrent qu'ils font la fête après une défaite où les supporters ils sont dégoûtés. Non, ce club, il marche à l'envers.
Karim, là où tu as raison, t'as pas raison parce que t'exagères un peu, mais c'est qu'en fait, ce qui est grave, c'est qu'en fait, c'est un épisode de plus dans le grand cirque.
Là, on est sur une séquence.
C'est juste qu'il y a une accumulation.
C'est la petite goutte, c'est la goutte d'eau.
Mais oui, il y a l'accumulation de tous les précédents. Mais là, si on parle de ça, de ce qui se passait, ce qui s'est passé hier soir. Eh les gars, justement, toi, moi, ce que je trouve beaucoup plus grave, c'est que Meunier ne soit pas au courant sur les cartons jaunes. La gestion de l'après-match de Dortmund, ça, c'est plus grave. C'est plus grave que de la soirée qu'ils font hier soir.
En fait, il y a une question que j'ai envie de poser pour sortir un petit peu de ce cadre de la fête-là. C'est le comportement de Leonardo. On l'a pas forcément entendu après le match contre Dortmund, sans réaction. Là encore une fois, il aurait peut-être dû sortir après tout ce qui s'est passé. Plus cet épisode de la fête, il ne sort pas. Et moi, ça m'étonne que personne n'ait encore soulevé ça, mais pour moi, c'est très clair ce que fait Leonardo. Attends, Karim. Juste pour finir, c'est très clair ce que Leonardo est en train de faire. Pour moi, Leonardo, il est en train de laisser Tourelle totalement plomber, de laisser se perdre, et de manière à faire ce qu'il avait prévu de faire depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire changer d'entraîneur.
On l'a pas entendu défendre Tourelle, notamment après les deux jours de critiques virulentes contre Tourelle.
Même avec Kylian Mbappé, on l'a entendu défendre son coach. Avec Neymar, on l'a entendu défendre son coach.
Parce qu'ils veulent virer depuis le début Tourelle.
Karim, tu veux rajouter un mot?
Oui, moi je voulais parler par rapport à Leonardo et notamment à la vidéo quand on le voit dans le bus totalement dépité. Ouais. En fait, le problème, moi je pense, de Paris, il date de d'août, quand ils ont fait le mercato. Moi maintenant, qu'on vient de me dire, qu'on me rappelle, si Paris gagne la Ligue des Champions avec des latéraux pareils, j'arrête le foot, j'arrête de regarder le foot. Je vous énumère les derniers vainqueurs de Ligue des Champions, Liverpool, Arnold, Robertson, le Real Madrid... Marcelo,
t'as raison, Karim, t'as raison, c'est pas la tête de Paris, mais c'est fini.
Comment on peut gagner une Ligue des Champions avec de tels latéraux? Et Tourelle, il s'est enterré. Il a joué un 3-4-3. Normalement, un 3-4-3, il est fait pour quoi? Il est fait pour utiliser au maximum.
Mais dans ce cas-là, mets pas ça en place. Mais Karim, tu prends le problème à l'envers parce que il le sait qu'il a pas des bons latéraux. Donc dans ce cas-là, joue pas avec une défense à 3, c'était totalement débile. Tourelle est passé à côté de son match. Ouais, bah il y a pas de débat à avoir là-dessus.
En même temps,
Tourelle est pas.
Ils ont tout hypoté, les latéraux, ils leur font pas une passe. Ils s'obstinent à aller dans l'axe. Alors ils ont pas confiance en eux, peut-être. Peut-être qu'ils ont pas confiance en leurs latéraux. Voilà, c'est peut-être ça. Mais parce que les gestes de dépit quand Meunier rate quelque chose, tu les vois. Toi, ça sent. Dès qu'il rate quelque chose, tout le monde commence à lever les bras ou à avoir des comportements négligents. Et c'est ça.
Merci Karim.
Il est pas en confiance.
Merci Karim. Excellente soirée à toi. Tu reviens quand tu
viens. Merci,
excellente soirée à toi. Tiens, ce message hashtag RMC Live qui est destiné, Jonathan, de Monio qui nous dit donc, selon toi, Jonathan, il faudrait attendre l'éventuel qualif et faire la fête avant les quarts de finale. Parce que maintenant, on sera toujours entre deux matchs des champions, c'est la qualification.
Bah ouais, pas entre deux matchs, surtout quand tu t'es fait sortir en huitième contre Manchester United et que tous tes supporters sont traumatisés et que tu sais que ton club est épié, enfin on épie les moindres faits et gestes de tes joueurs. Donc oui.
Après, peut-être qu'ils en ont rien à faire finalement, ils s'en foutent des commentaires et des critiques. L'essentiel, comme Thiago Silva sur le site du PSG aujourd'hui,
c'est qu'il
a dit quoi Thiago Silva? Écoutez les gars, il a dit « Je suis convaincu que nous allons réaliser un très bon match au retour, il faudra répondre sur le terrain. Si nous devons mourir sur le terrain, nous le ferons. »
Non mais en plus, là, moi, tu sais ce qui est dramatique et qu'aussi...
Tous les ans, il dit ça, j'ai l'impression.
Mais Nico, Damien, moi ce que je trouve aussi dramatique, c'est la dramatisation du résultat. Alors que le résultat n'est pas si dramatique en soi, parce que demain, ça te laisse les possibilités de sortir. Et quand tu compares la réaction des joueurs de Liverpool qui ont un résultat plus négatif, qui ont perdu 1-0 à l'Atlético, ils sont là, ils dramatisent pas, ils disent « Ouais, on va retourner chez nous, confiants, on a notre public. » Et quand tu vois, tu compares les deux discours, tu te dis, d'un côté, des gagnants et d'autres, des losers.
Mais c'est exactement ça. Ce que je te dis, la gestion de l'après-match, pour moi, est plus problématique que la fête. C'est catastrophique.
Bah non, c'est pas parti, Damien.
La zone d'interview, oui, mais la zone d'interview, Neymar qui met le feu, Meunier qui dit ça, pour moi, le problème est plus là. Au lieu d'être positif, je dis, les gars, il y a 2-1.
Ok, les gars.
Ne vous inquiétez pas, on va être gonflé à bloc et on va y arriver.
Les gars, voilà pour le PSG. Dernier message d'un peu dans l'océan qui me fait marrer sur hashtag RMC Live. Le PSG doit recruter désormais que des joueurs uniquement nés entre juin et décembre pour éviter des anniversaires dérangeants. Pourquoi pas, c'est vrai.
Bah ouais, il a raison, ouais. Bien sûr.
Ne pas naître entre février et
Critère de recrutement, allez, bon. Voilà. Il est bon, lui.
Les gars, puis Neymar, je vous rappelle, a dit qu'il n'irait pas au carnaval de Rio. Il s'est marié, il a fait une vidéo. Je crois que c'est le monde des choses. Saint-Etienne, rapidement, avant d'accueillir Paulo Breitner, cher à son cœur également. Ruffier et son agent. Contre Claude Puel, voilà, c'est le feu. Saint-Etienne, je vous le dis, 16e de Ligue 1, 2 points d'avance sur Dijon barragiste. Claude Puel a annoncé à Ruffier qu'il ne serait pas le gardien titulaire pour affronter Reims dimanche. Il alignera Jesse Moulin. Alors, décision en forme de sanction pour le gardien stéphanois, mais décision qui s'arrête pour le moment à ce seul match. Hein. D'accord, c'est pas forcément Ruffier out pour la fin de saison selon Puel. Il décidera ensuite. Alors Ruffier aurait quitté l'entraînement en colère quand il l'a appris. Ça n'en est pas resté là. Tout à l'heure, son agent dans Rotten Regal a détruit Claude Puel. Écoutons-le et on en parle rapidement après.
Quand un entraîneur à 2 heures d'un match contre le PSG à la collation manque de se battre avec un joueur, c'est pas un problème. Quand il a un problème grave avec le médecin, c'est pas un problème. Quand il se met à dos la moitié des anciens ou les trois quarts des anciens,
le problème,
personne ne dit rien. Je vais être franc avec vous. Pour moi, le problème de la Saint-Etienne aujourd'hui, c'est pas Stéphane Rogier. Hein. Moi, j'ai vu.
Pour vous, c'est Claude Puel.
Non, non, mais bien sûr, il veut virer David Ventier, il veut virer l'un, il veut virer l'autre, il veut virer l'entraîneur des gardiens. C'est son choix.
Bah, il faut qu'il les assume. Bon, voilà, pour être très clair, on parle d'un agent qui défend son joueur aussi, donc c'est forcément à charge.
Ouais,
mais sauf que là, il est en train de cramer son joueur.
Il faut dire deux choses.
L'armée est refusée après des propos comme ça.
Mais il peut plus en jouer, il va même plus être sur le banc. Donc si t'es
parce
leader.
S'il le dit, c'est que Ruffier lui passe le même message à son agent.
C'est ça. Donc on reproche à Ruffier de ne pas être assez impliqué, donc on le met sur le banc, il refuse d'être sur le banc. En gros,
le manque de respect pour Jesse Moulin aussi.
Manque de respect pour tous les gardiens. Mais tant mieux, après, à la limite, Jesse Moulin, on va voir ce qu'il va faire, s'il va pouvoir prouver. Il y a des jeunes qui sont très bons, qui montent de la formation, qui ont des choses à prouver. Tant mieux. Et il faut peut-être passer à autre chose. Et aujourd'hui, je finis là-dessus, Puel a peut-être entamé quelque chose. Et aujourd'hui, il morfle avec les résultats. Mais Ruffier, ça fait combien de temps qu'il est plus décisif, en fait, dans cette équipe?
C'est vrai qu'il n'est pas excellent en ce moment, c'est moins qu'on puisse dire.
Voilà. Et c'est maintenant qu'ils ont besoin de lui.
Allez, Jonathan, on accueille Polo dans un instant.
Là, il a raison, Damien. Les performances de Ruffier, qui est un gardien extraordinaire et historique des Verts maintenant, ses performances cette saison, elles sont en net recul. Le compte Instagram, là, je l'ai toujours, ASSE Actu Humour, ils avaient posté une infographie de ses performances cette saison. Allez visiter leur compte, vous allez voir, c'est criant. Après, la question, c'est Claude Puel. Alors, l'agent en question, là, il a fait la tournée, il n'a pas fait que chez Jérôme, hein, il a aussi fait la tournée des radios locales. C'est que Claude Puel, en fait, il est arrivé, il a mis un petit peu le feu un petit peu partout. On sait que oui, effectivement, il veut plus de David Ventier. Il y a pas mal de personnes de l'organigramme qui vont sauter. Mais en fait, le problème, c'est ni Puel, c'est ni l'agent de Ruffier. C'est le club qui est totalement désorganisé et que forcément, quand tu veux remettre un petit coup d'ordre, ça passe par ce genre de choses. Donc, c'est compréhensible. Mais malheureusement,
rapidement,
pour finir, et le problème aujourd'hui, c'est que dans ce club-là, tout le monde ne tire pas dans le même sens. Tout le monde n'a pas envie que Puel réussisse.
Et qu'il y ait un maintien à assurer, voilà. Absolument. Et là, ils sont en danger. Puel est là pour 3 ans et demi. Hein. Son contrat, c'est ça, en tout cas. Salut, Polo Breitner.
Bonsoir, mon cher Nicolas. Bonsoir, tout le monde.
Salut, Polo.
Bon, toi qui connais Saint-Etienne, hein, tu vas te marrer aussi ou pleurer, je sais pas. Peu importe. Le Bayern a gagné ce soir. Dans la douleur, face à Paderborn, dernier de Bundesliga. 3-2. Hein.
Oui, alors rapidement, c'est évidemment, tout le monde avait dans la tête le match contre Chelsea, qui sera un petit peu la revanche de la Ligue des Champions 2012, hein, je vous rappelle le scénario de l'époque. Beaucoup de personnes en parlent en Allemagne. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, on n'a pas mis l'équipe B, parce que quand tu vois l'effectif, c'est plus l'équipe A prime. Mais faut-il aussi un minimum respecter, de pas mépriser son adversaire. En gros, le Bayern n'y était pas ce soir, sauf qu'en face, il y a une équipe qui se bat match après match pour tenter d'être barragiste, donc ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué pour le Bayern. Évidemment, le Bayern techniquement était largement au-dessus, mais à force de laisser les lignes extrêmement larges et à force de ne pas se replier, ben voilà, deux fois Paderborn est revenu au score. Heureusement pour le Bayern, il y a deux joueurs qui sont pas si mauvais que ça. Il y en a un qui s'appelle Lewandowski qui a encore mis un doublé ce soir, et puis il y a Serge Gnabry qui évidemment sera titulaire aussi à Chelsea, un but de passe. Donc voilà, mais c'est un petit rappel à l'ordre, je pense, pour le Bayern, parce qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe.
Polo, Lewandowski, 37 buts en 32 matchs cette saison, oui. C'est dingue. Peut-être lui, le meilleur neuf d'Europe, quoi.
Il est dans la forme de sa vie, donc et puis c'est bien, puis il marque tout le temps, tu vois. C'est pas des séries, c'est tout le temps, il marque.
Polo, ça fait un moment que tu me parles de l'éventualité d'un retour de Tourelle en Allemagne. Alors ça devient un vrai sujet par aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment en train de sortir officiellement là.
Bon, il y a eu cette semaine des médias allemands qui ont évoqué le retour de Thomas Tuchel en Allemagne. Évidemment, il n'y a pas 50 000 clubs en Allemagne qui peuvent l'accueillir. La question, évidemment, c'est quand. Moi, ce que je sais, c'est qu'au Bayern Munich, en ce moment, l'actuel directeur général, donc Karl-Heinz Rummenigge, est en train de faire le ménage. Pour simplifier, il y a une dizaine de joueurs qui posent problème au niveau des contrats, c'est-à-dire on les prolonge ou pas, etc. Il y en a notamment des trentenaires. On sait que Jérôme Boateng va sûrement partir, mais quelqu'un comme Manuel Neuer, par exemple, toujours pas eu de prolongation, et d'ailleurs lui-même l'a dit dans la presse, j'ai rien vu venir. On ne sait pas si Thomas Müller va continuer, on ne sait pas si David Alaba va continuer. Rappelons quand même qu'il a encore joué en défense centrale ce soir et qu'on a mis 80 millions sur le Français Hernandez. Donc c'est tout ça est un petit peu limite. Le deuxième paramètre qui me semble important, c'est aussi dans les transferts, c'est-à-dire que on parle beaucoup de 2-3 joueurs l'année prochaine au Bayern Munich. Le premier, c'est le Français Upamecano. Le deuxième, c'est évidemment un serpent de mer, c'est Leroy Sané. Et le troisième, c'est la petite pépite de Leverkusen, évidemment Kai Havertz. Ce qui est très intéressant, c'est que Kai Havertz, il est dans une agence qui s'appelle Rogon, qui est très importante, et qui a aussi dans son écurie Serge Gnabry, qui s'entend très bien avec Hansi Flick, le coach du Bayern. Sauf que le coach du Bayern, il est là théoriquement jusqu'au mois de juin, et ça s'arrête là. Et donc certaines personnes ont commencé à dire mais qu'il faudrait le prolonger. Si on le prolonge, évidemment, ça veut dire que la rumeur Thomas Tuchel s'éteint tout de suite. Et comme par hasard, dans ce jeu de chaises musicales, on se rend compte que le Bayern Munich, eh ben, il n'y a jamais une seule personne qui parle au nom de tout le club, et qu'en gros, Rummenigge, on souhaite faire le ménage, donc ça signifierait que Thomas Tuchel serait, j'ai pas envie de dire en phase d'atterrissage, mais que c'est important.
Et ben, on vous le rend avec grand plaisir.
Pardon ?
On vous le rend avec grand plaisir.
Non, mais évite de dire des choses comme mais ça, ouais, parce que c'est un peu idiot, en fait.
Ouais. Non, c'est un peu idiot. Vas-y, Polo. Vas-y, Polo. Non, avec grand plaisir. Il sera bien mieux
de
là-bas.
De l'autre côté, d'accord, ok.
Vas-y, Polo.
C'est une question sûrement de tactique, le match.
Non, c'est une question. Vas-y, Polo. Il fera du meilleur travail au Bayern, tu peux en faire au PSG.
Polo, je te fais un peu, vas-y.
Et la deuxième chose qui est importante, c'est évidemment le clan ENS, représenté aujourd'hui par le grand patron qui est Herbert Heiner, le ancien président du conseil de surveillance d'Adidas, qui lui, pousse pour une prolongation d'Hansi Flick, et comme par hasard, ne s'imagine pas un Bayern sans Thomas Müller. Donc tout ça, en fait, fait c'est un petit peu compliqué.
Ben voilà, c'est aussi un peu le bordel. C'est un bordel annoncé peut-être au Bayern Munich. Jeu politique en coulisses.
C'est Hollywood is
comme d'hab. C'est intéressant. Et ben voilà, ils sont premiers encore de.
Et je rigole pas, il sera bien mieux là-bas. Il redeviendra un bon entraîneur en allant là-bas, je pense.
Merci Polo.
Merci Polo. Merci.
Salut Polo.
Bonne soirée Polo. Désolé, on n'a pas eu beaucoup de temps. Tiens, il y a deux places à gagner pour Marseille-Nantes demain 17h30. On a deux personnes au 32-16. Benjamin, salut. Salut Benjamin, supporter marseillais. Salut Baptiste, supporter nantais, messieurs. Deux places à gagner, une question, elle concerne l'OM.
Salut.
Petit avantage pour Benjamin, a priori, du coup. Messieurs, écoutez-moi bien. Quel est l'actuel joueur de Marseille qui a marqué le plus de buts en Ligue 1 sous le maillot marseillais? Quel est l'actuel joueur? Payet, tu dis qui dit Payet?
Baptiste.
Et Benjamin, tu dis quoi?
Moi, je dis Flotovin.
C'est gagné pour toi. Baptiste.
Baptiste.
Benjamin. Ouais. Tu gagnes deux places. Flotovin, 68 buts, Payet.
Il revient bientôt.
Oh, tant pis.
T'as deux places.
C'est gentil, super, merci.
Deux places, merci les gars.
Merci, bonne soirée à vous.
Très rapide, en 3 secondes. Eh ben, on repart. Ah, voilà. Excellente soirée, les gars.
Salut,
demain.
Les gars.
Salut,
ciao, Damien, ciao, Jonathan.
Salut, Nico.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.